création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. En face, un piano grand ouvert où se nichent entre les cordes de mystérieux objets. À gauche, les nouveaux outils des compositeurs, ordinateurs inclus. À droite, quatre comédiens. Dans la salle du Conservatoire de Brest, alors que le festival Longueur d'onde bat son plein, nous attendons une radioperformance qui nous promet à la fois une réflexion sur le médium radio et une improvisation qui emprunte son fil directeur à la formule de Mauricio Kagel, la radio comme musique, la musique comme radio. En collaboration avec le groupe de recherche musicale GRM INA, pour la radio, making of d'une radioperformance, Andrea Cohen, Diego Loza, Véronique Lamandour, création on air.
Quand on écoute la radio, on ne commence pas toujours au début. À un moment donné, la musique vient vers la radio et se transforme en radio. À un moment donné, la radio vient vers la musique et se transforme en musique. À un moment donné, la musique vient vers...
Ok. Et là, ça, qu'est-ce que ça donne ?
La radio nous éclaire beaucoup.
Lui, c'est...
Nicolas Frise.
Nicolas Frise.
La radio nous éclaire beaucoup.
Douce, et ici, c'est...
À un moment donné, la musique vient vers la radio et se transforme en radio.
C'est notre couleur.
Le son, je suis souvent assez malheureuse. Enfin, je peux être malheureuse si je n'ai pas de son. Je vais aller chercher du son. C'est ce qui est produit par le monde, par l'environnement.
Alors, je suis assez attentif. Je note, on va mettre Schaeffer.
Donc il y a Schaeffer, il y a Ferrari.
Ferrari, ok.
Et Kay Montieri.
Ah, mais c'est parfait pour la section qu'on va faire sur la partie séquence son.
Mm-hmm.
Je crois que un peu ça.
La
couleur de sa voix, elle est.
Et là, ça
Il meurt.
Écrire.
Ça c'est très fort. C'était... Alors ça c'est Mauricio Kagel, c'est Lina. Ça.
Écrire avec les ciseaux, avec des sons, avec des bruits, avec des mots.
Tant que texte, bruitage et musique.
Écrire avec les ciseaux, avec des sons, avec des bruits, avec des mots. Avec des bruits, avec des mots.
Pour les mots, peut-être qu'on peut mettre un petit fade de l'ombre à la fin du mot.
Tout avec petit. Des mots. Avec des mots.
C'est très spécial la radio. C'est très spécial la radio.
C'est très spécial. Est-ce que, oui, non, c'est bien, là. Ça commande, ça peut commander. Il a une très jolie voix. Un peu mélancolique, oui, c'est vrai. Très jolie.
C'est très spécial.
Tchouk.
Andrea, faisons le final de ça. Clavier pour approcher le.
Okay. Dès que tu m'envoies la frappe, moi je joue.
Ok, tu t'entends jouer.
que c'est que la radio, au fond, c'est comme quand on met le coquillage à son oreille, on entend, croit-on, le bruit du monde.
Moi, je fais de la radio, je pense parce que j'aime ça d'abord.
La radio est tout le temps musicale.
Je prendrais la radio beaucoup plus comme une sorte d'instrument, d'outil, de médium.
Ce qui crée la radio, c'est d'avoir du son qui passe par les ondes.
Moi, je fais des pièces à la radio où j'utilise la radio.
C'est une radio d'expérience, de recherche et d'expérimentation.
Je crois que la radio, c'est quand même un creuset d'échange.
La radio est un média qui joue sur l'intériorité.
Moi, je fais des pièces à la radio, j'utilise la radio.
La radio, c'est effectivement à la fois un médium et un lieu de création.
La radio est un...
Je crois que la radio, c'est quand même un creuset.
La radio, c'est effectivement à la fois un médium.
On dit souvent beaucoup trop à la radio.
Ce qui crée la radio, c'est d'avoir du son qui passe par les ondes.
Peut-être que je préfère... Qu'est-ce que c'est que la radio, au fond ? C'est comme quand on met...
Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que la radio...
Il y a des écouteurs devant chez nous.
C'est que la radio, au fond, c'est...
Il est très très difficile de définir Pierre Schaeffer, parce qu'il est hors catégorie.
Oui, mais Maurice, non, mais...
Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Il est compositeur, mais pas vraiment. Il est écrivain, mais pas vraiment. Il est philosophe, mais pas vraiment. Donc les gens qui sont interdisciplinaires, intercatégories, finalement, le tamis, c'est-à-dire cet inventaire qu'on a fait de toutes les catégories, ne les prend pas en compte. Alors que ce sont des personnages qui ont précisément, grâce à leur vision transversale, ont pu créer des choses nouvelles. C'est des phares, ce sont des générateurs de plein de choses, ce sont des créateurs dans un sens inhabituel du terme.
Alors il y a deux choses, c'est-à-dire que Schaeffer, c'est à la fois une expérience radiophonique, c'est en même temps le créateur, avec Pierre-Henri, de la musique concrète.
Donc Schaeffer a très très bien dit, par la notion d'écoute réduite, qu'il fallait apprendre à écouter les sons indépendamment de leur cause.
Pierre Schaeffer a été quand même initiateur du service de la recherche, qui a quand même amené à faire un certain nombre de réussites, dont les Shadok est un des exemples qu'on peut citer, parce que tout simplement, c'était la preuve qu'on pouvait faire de la création. Là, c'était en télé, avec un succès populaire et de l'humour, ce qui est une chose très, très importante.
Mais qu'est-ce que c'est que la radio, au fond ? C'est comme quand on met le coquillage à son oreille, on croit-on le bruit du monde ? Il y a un
merveilleux
symbole.
Parce coquillage, bruit du monde. Bruit du monde.
Mais qu'est-ce que c'est que la radio, au fond ? C'est comme quand on met le coquillage à son oreille, on entend, croit-on, le bruit du monde. C'est-à-dire qu'il y a un merveilleux symbole.
Le bruit du monde.
La coquille à planète, je dis. La coquille à planète est une espèce de prestidigitation. On ne sait jamais si on entend le bruit de son propre sang. On entend, croit-on, le bruit du monde, 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 le bruit du monde.
Pour moi, la création radiophonique, l'expérimentation sur un support qui va directement dans l'intimité des maisons et qui est reçu par les gens donc qui sont chez eux et qui sont pas dans une attitude de collective mais individuelle, est une écoute complètement différente et donc aussi une attitude par rapport au son qui est différente de celle du concert.
La création radiophonique, un support, un support qui va directement dans l'intimité des maisons.
On ne fait pas un hors-spiel, une création radiophonique, comme on fait une œuvre électroacoustique pour le concert.
Le docteur du son.
Quand je fais une émission de radio du genre hors-spiel, je me mets à composer. Je compose avec des ingrédients qui sont complètement différents de ceux que je manie en musique électroacoustique ou en musique instrumentale. La création pour la radio, c'est comme de dire je fais maintenant, si je suis peintre, je fais une gravure. On n'emploie pas les mêmes techniques, on n'emploie pas les mêmes ingrédients. Ou bien, si je dis, bon, maintenant, je fais un disque. Quand on fait un disque, on n'enregistre pas de la même manière que quand on est dans un concert, puisque on a la possibilité de reprendre, etc. Donc, c'est tout à fait différent. Et un disque, c'est un objet avec un texte, avec des images, avec des photos, avec une invention spécifique. Et donc, on doit créer pour le disque, on doit composer un disque. C'est dans le sens-là que j'emploie ce mot composé.
Le son.
Ah oui, on peut le mettre comme un peu de.
Negmotiv. Oui, oui, parce qu'il peut revenir.
C'est lui qui nous amène un peu malade, non?
Tout à fait, tout à fait.
Le bruit du monde. Le bruit du monde.
Il y a un côté laboratoire, il y a un côté salle de bain, il y a un côté laboratoire photo, on développe. Il y a un côté salle de bain, quoi. Enfin, on est dans sa salle de bain et on essaie de. Il y a une sorte d'extraction de l'intimité personnelle, quoi. Enfin, une sorte de. C'est pas une extraction d'ailleurs, c'est une ouverture vers l'intérieur, beaucoup plus. Je dirais que le concert, c'est une extraction. Le concert, on prend quelque chose de plus intime et on va le dire au plus loin. La radio, on prend la chose qui est au plus loin et on va la dire au plus près. C'est comme si on, c'est plutôt un acte de pénétration, quoi. C'est plutôt l'inverse. C'est qu'en fait, on voudrait que les gens, nous, on se met à entrer dans quelque chose. On entre dans des sons, dans des univers, dans des mots, dans des, je sais pas quoi. Et on invite les gens à venir y rentrer. C'est un peu l'inverse du concert. Où le concert, on témoigne d'une chose qui vient de sortir. C'est de l'intérieur, quoi. On entre dans le corps. On entre dans le corps social, on entre dans le corps des mots, des sujets, on entre dans le corps des gens. Et on entre dans leur voix, on pénètre dans leur bouche. C'est... Je trouve que la radio, c'est assez sexuel quand même.
La radiophonie... Ça y est, je peux causer maintenant.
Je l'imagine dans le hörspiel. C'est un voyage sonore à travers un paysage, qui soit un paysage social, psychologique, sentimental, avec ses problèmes, avec ses gens, avec ses bruits et avec ses images sonores. Donc avec ça, c'est composé.
Thank you.
pour tout vous dire, il y a deux sortes de productions d'art radiophonique. Il y a celles qui sont faites par des gens de radio, et puis il y a celles qui sont faites par des compositeurs. Et il y a une très très grande différence entre les deux, parce que les compositeurs ont un sens de la forme, un sens du temps qui se remarque tout de suite et qui n'est pas du tout le même. Et ont une certaine désinvolture par rapport au contenu du matériau qui n'est pas du tout le cas d'une oreille de créateur radiophonique qui va plutôt sentir la vie, l'enquête, le document, une certaine forme de communication et qu'il fera passer dans son travail. Le compositeur n'a pas une démangeaison de communication sur le même domaine. Et il s'en fiche, par exemple, si on ne comprend pas très bien le mot ou s'il y a des répétitions, ou si quelque chose provoque des symétries ou des choses de ce genre, qui seront très importantes dans son sens de la forme. Et en dépit du contenu qui est un peu bousculé, voilà. Alors, c'est pour ça que je me place plutôt dans la catégorie, je dirais, un peu amateur, il y a qu'à le dire comme ça, dans lequel il y a des grands noms, par exemple, Kagel, par exemple, Ferrari, par exemple, Pierre-Henri, par exemple, des gens comme ça, qui ont d'ailleurs beaucoup mieux travaillé que moi dans ce domaine, mais qui ont travaillé comme des compositeurs.
On entend les voix des compositeurs, tu sais que j'avais enregistré. Oui, bon, j'ai enregistré plein de compositeurs, donc j'avais François Bell, je l'ai enregistré deux fois. C'était entre 1998 et 2000 à peu près, tu vois, donc ça fait 20 ans. Et puis donc j'avais rencontré une vingtaine de compositeurs qui avaient fait de la radio, soit d'une manière épisodique, soit... vraiment, qui faisait souvent des pièces radiophoniques pour l'atelier création.
Super, c'est les fantômes, ça.
Voilà, je te fais que pour toi.
Le fantôme de
Belle.
D'une certaine façon, ce que m'intéresse beaucoup dans la création radiophonique, c'est sa dimension critique. C'est son absence de catégorie. Et donc, je n'ai pas envie de réintégrer dans des catégories quelque chose qui, donc pour moi, toute la valeur est d'être à cheval sur 36 catégories. Et de ne jamais vouloir, finalement, s'aligner, même si on dit, avec les années, avec les décennies, en prenant les réussites, on peut dire, voilà, ça crée un alignement, ça crée des catégories. Mais non, je dis justement non, parce qu'en général, une bonne œuvre radiophonique est à la fois un acte initial et un acte final. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais recommencer. C'est comme la poésie, d'une certaine façon. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle répétable. C'est-à-dire, il n'y a que des instants de réussite, on pourrait dire presque par surprise, inopinés et finalement imprévisibles. Et ça, c'est merveilleux avec l'art de support. C'est justement de pouvoir choper l'imprévisible et de pouvoir jeter comme ça des filets, comme ça, sur ces espèces de poissons volants, sur ces espèces de papillons... de songes qui sont des flashs de l'existence avec ce que ça peut avoir de temps en temps de très beau, de temps en temps de très crasseux, de très vulgaire, de très quelconque, mais en même temps de très fort, qui vous interpelle très fort.
Est-ce que tu pourrais pas prendre le sampler et essayer de monter les voix maintenant, et on essaye avec les petits claviers?
Ok, d'accord.
En fait, j'ai l'impression quand même que les compositeurs qui sont passés par le GRM et qui sont passés par la classe électroacoustique de Schaeffer, là, ont quand même été déjà dans la radio, quoi. Enfin, ils étaient déjà, quand on est au groupe de recherche musicale, Et donc, on a la radio tout autour de nous et on squatte les studios pour enregistrer des pianos, des clavecins, pour faire des mixages, des montages dans les studios, etc. C'est une époque où on pouvait rentrer dans la radio assez facilement. Et donc, on était déjà en train d'utiliser les moyens de production de la radio pour faire de la musique électroacoustique. Et puis, on était autour, à côté, enfin, on avait les mêmes espaces, il y a une sorte comme ça d'évidence de la proximité entre les deux. Je parle pas de la musique symphonique, mais vraiment de la musique électroacoustique. En plus, la musique électroacoustique est vraiment faite pour être écoutée sur des haut-parleurs, ce qui est vraiment... Il y a une proximité avec la radio qui est énorme. Donc c'est assez naturel qu'un compositeur d'électroacoustique se mette à faire de la radio, comme beaucoup de confrères. Alors moi, je fais pas beaucoup de musique électroacoustique, mais comme j'en ai fait, j'ai une origine de proximité de la radio. Je pense que c'est...
C'est une double, je ne me rappelle plus comment ça a commencé, mais enfin, en tout cas, c'est une double direction. C'est moi qui voulais en faire, qui d'ailleurs cherche toujours à en faire. Et puis effectivement, des gens qui m'ont demandé, tiens, tu ne voudrais pas faire quelque chose.
À la radio, il y avait la possibilité, dans certains secteurs de la radio, et notamment à l'atelier de création de France Culture, qui est une sorte d'excroissance du fameux studio des 7 chez Fer, en fait. C'est un reste, c'est quelque chose qu'a fondé Alain Trutat, et c'est quelque chose qu'a fondé Alain Trutat un peu dans cet esprit-là d'une sorte de travail expérimental à l'intérieur de la radio. Hein. Et donc là, il y avait la possibilité d'une certaine liberté. Et aussi d'être dans un médium de masse, parce que la radio c'est un médium de masse, et donc d'être confronté avec des problèmes de réception d'un public qui n'est pas un public de spécialistes. Moi j'étais souvent attristé d'aller dans des concerts de certains de mes amis ou de mes collègues que j'avais connus au conservatoire ou après, où tout le monde était là plus ou moins invité, n'est-ce pas, dans les premières. C'est catastrophique de voir ce public qui est un public de spécialistes, qui écoute la musique de l'autre à l'aune de sa propre musique. Enfin, c'était quelque chose d'affolant, quoi. Et donc, d'un point de vue politique, la radio me permettait d'avoir un rapport social peut-être plus clair.
Et je prendrais la radio beaucoup plus comme une sorte d'instrument, d'outil, de médium, parce que c'est ça, hein, et que comme un style à donner ou quelque chose comme ça. Et évidemment, ça donnait un style, en fin de compte, qui correspond à quelque chose qui me plaisait beaucoup dès le début de la période de création, et qui était cette prise de conscience de un peu de l'univers dans lequel on vit en tant que musicien.
Pourquoi je fais de la radio? Ben, je pense parce que j'aime ça d'abord, et que je pense que j'ai un rapport au monde qui fait que j'ai envie de faire des choses où il y a du signifiant. Et que pour moi, la radio, ça permet ça. Ça permet d'avoir un rapport plus concret au monde, plus un rapport d'exploration concrète. Alors que le travail de composition, c'est quand même un travail très abstrait. Donc je pense que j'ai besoin de ces deux dimensions-là pour retrouver un peu une unité, quoi. Alors je pourrais effectivement me projeter dans le monde en écrivant, en faisant du journalisme ou des choses comme ça, mais bon, là, en faisant de la radio, on a quand même toujours son oreille de compositeur, c'est-à-dire on a le plaisir de travailler avec les sons, avec les voix, avec le rythme, le rythme des voix, le rythme du rapport dans le rapport à la parole au son. Donc c'est quand même un travail où l'oreille du compositeur travaille tout le temps.
À la radio, on est énormément obligé de composer. Plutôt que de dire compositeur, j'aurais envie de dire composeur.
Juste un compositeur.
Un conteur.
Plutôt que de dire compositeur, j'aurais envie de dire composeur. On compose avec ce qu'on a, on compose avec les éléments.
Un conteur plus qu'un compositeur. Ça fait posie en
composant. On compose avec ce qu'on a, on compose avec les éléments.
Compositeur.
À la radio,
on compose. On compose, quoi. On pose
on compose avec ce qu'on a. À la radio, on est énormément obligé de composer.
Thank you.
Quand on parle de la musique, comme musique, pas comme vie, mais comme musique, on le sépare de la vie. Mais nos oreilles nous font de liaison avec la vie. Et cette musique qui est séparée de la vie, c'est avec des sons qu'on appelle musicaux et les autres sons qu'on appelle non musicaux ou même des bruits.
Cage nous parla longtemps, mais il chanta aussi.
Eh bien, si on va sans cette distinction, on peut se servir des oreilles et en écoutant même les bruits, on peut avoir la musique. Et moi, j'ai trouvé cela pour moi-même vers 46, 7, 8. Et après 67, j'ai lu dans le journal de Henry David Thoreau que la musique est continuelle et que c'est simplement l'écoute qui commence ou qui s'arrête.
Performance, pour moi, il y avait plein d'hommages. Et l'hommage principal, c'est John Cage. Ouais. Mais de différentes manières.
Moi, je pense qu'on a fait non seulement le piano préparé, sinon l'ordinateur préparé.
Voyage et même en temps réel, ou même si c'est pas temps réel, même si c'est un montage d'enregistrement de des endroits différents, on voyage. C'est pas difficile à croire qu'on voyage dans les
territoires. Je suis un peu voyageur, comme vous le dites, un compositeur, donc j'essaie même d'aller si dans les territoires qui m'attirent, mais qui me font découvrir de nouvelles richesses. La radio est susceptible de ça. D'autant plus qu'il va y avoir rencontre avec d'autres personnes.
Au retour, on a la chronologie de ce voyage est terminée. Jusqu'à présent, on ne sera plus jamais comme ça. Voyage.
On voyage.
Je suis un peu un voyageur.
Un voyage, c'est pas difficile à croire qu'on voyage quand on écoute la radio.
Les voyages améliorent les sons et empirent les sons.
Si tu voyages dans la pirogue de quelqu'un,
le vrai voyageur,
le vrai voyageur ne fait pas vivre.
Mariage ne rime pas avec
bon voyageur pompier.
Ah bon voyageur pompier.
À chaque nuage.
Ah bon voyageur
pompier. Ne fais jamais voyage.
Voyage. Et tu verras quantité de choses.
Le vrai voyageur.
Le hasard est une loi qui voyage incognito.
Le voyage incognito.
Seul celui qui perd trouve de nouveaux chemins.
Un bon voyageur, bon pied.
Voyage. Et tu verras quantité de choses.
Un bon voyageur.
Voyage ajoute à sa vie.
Ne pas avec voyage.
Qui veut commencer?
Voyager.
Allô? Qui veut commencer?
Un bon voyageur ne sait pas où il va.
Un bon voyageur, bon pied.
Si ah tu bon voyages voyage, dans la pirogue de quelqu'un,
chante avec un autre, ça va être compliment à dire l'opposé.
C'est parti.
Le voyage, c'est qu'aller de soi à soi en passant par les autres. Si tu voyages dans la pirogue de quelqu'un, chante sa chanson.
Voyage, et tu verras une quantité de choses.
Mariage ne rime pas avec voyage.
Le ponemos ritmo a la tarde de Radio Rivadavia con buena música, con buena onda y además con información.
On peut dire qu'il y a un parti qu'on va dire voyage dans le temps.
Voyage dans le temps.
Il y a un peu d'espace.
Última tarde del programa, con todo lo que nos queda del espectáculo, con todo lo que tenés que saber.
Mauricio, quand vous avez commencé de vous intéresser à l'art acoustique que nous appelons en Allemagne le Hörspiel?
Et je me suis intéressé depuis que j'ai commencé à travailler pour la radio, c'était déjà en Argentine, et je me suis intéressé très tôt en Argentine.
C'est-à-dire dans le 40...
48. Oui. J'ai travaillé à la radio et à la fin des années 40, j'étais 18, et on m'a demandé de faire toute une série d'émissions sur la nouvelle musique et aussi sur la nouvelle musique dans certains pays. Et c'était après la guerre, je n'avais aucune matériel sur ça. Et j'ai commencé, cette année-là, à inventer des compositeurs. J'ai fait des émissions totalement apocryphes.
Et c'est ce que veulent cobrarse les autorités, quitando l'État, quitando les cuidados et les ministres pour les prochaines années. Absolutamente nada. Esto es así, se vio siempre. Es aquello sabio de Nengo Dolina. Nunca fue tan claro. Es que era muy claro todo lo que iba a ocurrir en Argentina.
Et ce que je voulais toujours, et ça c'est un héritage peut-être wagnérien, c'est faire les tout. Faire vraiment écrire les textes, les montages. Les grands secrets de notre métier, c'est être vraiment à la table de montage, c'est pour les films, de faire les montages de ces pensées acoustiques déjà enregistrées, disons, enregistrées. C'est seulement une partie de notre pensée, parce que nous écrivons avec les ciseaux. Alors, ce que je voulais toujours, c'est écrire avec les ciseaux, avec des sons, avec des bruits, avec des mots.
Comment les sons racontent-ils ? Ce n'est pas les sons qui racontent d'où ils viennent. Le son de la mer ne raconte pas bien la mer. Le son de la pluie ne raconte pas toujours la pluie. Moi, je m'étais allé faire des musiques où je peux évoquer, comme on dit, hein, la pluie, à partir certes de son dos, mais le son fait avec autre chose.
Et lui, c'est Michel Sion.
Il parle plus fort, peut-être.
Bien sûr, si on enregistre le pas de quelqu'un qui marche, la plupart du temps, ça ressemble à un bruit de pas. Mais le pas de qui, on ne sait pas, on ne peut même pas visualiser qui marche. Donc, de toute façon, si on veut faire une musique narrative, évocatrice, je dirais, peu importe, la source, c'est ce qu'on en fait, et on peut très bien faire la mer évoquer avec des sons électroniques, avec autre chose. Donc, il faut bien distinguer le niveau de la cause réelle du son et le niveau de ce que ça raconte, ce que ça évoque. Comment les sons racontent-ils ?
Ce n'est pas les sons qui racontent. Des phonèmes, des variétés de voix, des variétés de langues, tout m'intéresse.
Le son, c'est comme des petites valves. Ce sont des alvéoles de temps. Entre chaque petite vague, chaque période, puisque le son c'est de la vibration et les vibrations c'est périodique, donc chaque période contient un petit espace temporel. Donc retenir le son équivaut à retenir le temps, et retenir le temps, philosophiquement parlant, c'est absurde, c'est une impossibilité, parce que le temps par définition c'est cool, et il n'y a absolument aucun moyen de retenir le temps sauf à retenir le son. C'est-à-dire que le son qui se retient, et, ou plus exactement ce qu'on retient, c'est plutôt le sens du son, mais par le fait même, on retient aussi des fragments de temps. C'est un peu comme une photographie où sur la photo, on prend un sujet, mais on ne prend pas que le sujet. En même temps qu'on prend le sujet, on prend aussi un fragment temporel d'une époque, c'est-à-dire on prend le sujet dans son cadre, c'est-à-dire avec ses vêtements, avec sa coupe de cheveux, avec ses yeux, avec les décors autour, les jardins, ou les ameublements, ou le tapis. Il y a un air, il y a une bulle de temps qui est attrapée là, et qui est quelque chose de terriblement émouvant, parce que finalement le sujet, il a disparu, ça on n'est pas étonné. Mais le temps qui est pris là ne disparaît pas. Et est plus fort que le sujet même. Alors, c'est...
Ce que nous sommes en train d'enregistrer, d'un certain point de vue, c'est une archive. Ou c'est appelé à être une archive. Mais si on l'écoute demain, on n'a pas la sensation d'écouter une archive, ou même dans un an. Il faut un certain temps, parce que dans ce que nous sommes en train d'enregistrer, il y a plus que ce que je suis en train de dire. Il y a aussi le son de l'époque, on est en train de le faire, qui est lié à la technique. Il y a aussi la mentalité de l'époque que nous sommes en train de vivre. J'ai une manière de formuler mes idées, qui n'est pas la même que si je les avais formulées il y a 40 ans. Et vous avez une manière de poser les questions qui n'est pas la même que si vous les aviez posées il y a 40 ans. Donc, en plus, il y a, et ça c'est le fait de l'archive et c'est le fait du support, il y a beaucoup plus. On est en train d'enregistrer notre époque. Capter un son, c'est avoir un point de vue sur le son.
Je vais aller chercher des sons.
Écrire avec des ISO, avec des sons, avec des bruits, avec des mots.
Texte et bruitage. Il n'y a que texte, bruitage et musique.
La frontière entre une langue écrite, une langue parlée, une voix qui lit, une voix qui parle, se fait évidemment, on peut analyser le rapport de la parole à l'écriture, enfin tous les mots, tout ça, mais le passage du timbre d'une voix à une autre, d'une rapidité à une autre, d'une dynamique à une autre, tout ça compte à peu près autant. Et souvent dans un travail radiophonique, ce qui compte, c'est justement une espèce de sentiment comme ça, global, d'équilibrage à peu près de... Mais c'est comme en musique. À ce niveau-là, c'est vrai que c'est comme en musique, ou comme dans un livre, de façon différente dans le rapport au temps, à la durée et tout ça. Et on s'aperçoit que à chaque moment, tout compte. C'est-à-dire que, mais des fois, il est... Simplement, il y a une hiérarchie dans l'écoute qui fait que tout ce qui est de l'ordre du texte, du verbal, prédomine dans notre société, ce qui fait que si par exemple il y a un texte et une musique, forcément l'analyse ira immédiatement du côté du texte, la musique étant un accompagnement, une ambiance, quelque chose comme ça, et à un moment donné c'est très très complexe d'échapper à ça, parce que ce sont des habitudes d'écoute et d'analyse, alors que dans certains cas le texte peut être intéressant parce qu'il amène à articuler des phonèmes par la voix qui elle-même correspond à des choses de la musique, et il faut pouvoir s'en rendre compte et voir que c'est ça. Et j'entends bien dans des choses assez concrètes, pas dans un espèce de collage, où effectivement on s'aperçoit si quelqu'un dit n'importe quoi sur un truc comme ça, on voit bien que c'est plus une sorte de chaos musical bon, qui fonctionne.
À un moment donné, la musique vient dans la radio, elle se transforme en radio. À un moment donné, la radio vient dans la musique, elle se transforme en musique.
Le langage radiophonique nous remet dans une situation d'écoute pure.
Le son que nous entendons nous renvoie quelque chose de nous, de l'enfance, parce que l'être humain, au niveau du son, il a projeté des voix sur ses sons, etc. Et donc il y a un côté hallucinatoire dans l'écoute du son, on a besoin que quelqu'un vous parle, quelque chose comme ça. Et tout le côté physique, organique du son, tout le côté par quoi il nous renvoie, vraiment, encore plus directement que la peinture au côté organique, les musiciens en ont plus peur que les peintres, parce que le son, c'est plus près du corps, hein, plus près de l'archaïque, plus près de l'intra-utérin, plus près du pré-natal.
Il y a une sensualité du son à rechercher.
Des bruits de conversation, des phonèmes, des variétés de voix, des variétés de langues, tout m'intéresse.
Le son m'intéresse pour ses qualités, y compris de ce qu'il raconte. Visuellement, hein, ce qu'il raconte dans la tête, mais aussi de ses qualités acoustiques. Il y a chez moi un grand respect du son, comme si c'était des personnages que j'avais débusqués quelque part et qui m'appartiennent, et que après je soigne d'une façon extrêmement jalouse, c'est-à-dire je les habille, je les transforme un tout petit peu pour qu'ils viennent encore plus beaux, je les assemble de façon à ce qu'ils passent de l'un à l'autre sans être choqués, ou alors si je veux qu'ils soient choqués, donc je fais ce qu'il faut pour ça, je les déshabille, et s'ils sont puritains, à ce moment-là, ils réagissent d'une certaine manière. Et tout ça pour construire quelque chose de beau, j'ose employer ce mot-là, quelque chose de beau qui peut être extrêmement désagréable. C'est-à-dire désagréable parce que c'est pervers, parce que il y a trop de problématiques, ça pose trop de questions, etc. Donc tout ça, ça veut dire où on fait l'équilibre des choses. Et voilà, c'est un petit peu comme ça que je vois le son.
Le son a une double nature parce que
Quand on l'entend, c'est redevenu du son normal, n'est-ce pas? Parce que pour l'entendre, il faut restituer la normalité du son, c'est-à-dire son caractère éphémère, parce que sinon, un son serait un bouchon pour les autres sons. Or, il faut que le son disparaisse pour que les autres sons arrivent et soient entendus aussi, et disparaissent à leur tour, pour que sans arrêt, il y ait un arrivage. Hein. Donc, le son a un contrat différent, parce qu'il est fait d'une autre manière, sur un autre support, et il est, en réalité, c'est un son vitesse-lumière, c'est-à-dire il est transformé dans une autre nature de flux, et après il est restitué dans la nature écoutable, mais entre les deux, il est passé dans un autre espace, et cet autre espace est un espace de métamorphose possible.
On fait de la radiophonie, mais en utilisant l'espace scénique.
La radio FM, utilisation de radio de programme et radio FM,
L'art acoustique retrouve l'image d'une certaine manière et retrouve le direct, retrouve la scène.
La bande de radio fréquence à 3 longues kHz.
En anglais, utilisée par les stations de radio en modulation.
Donc ça recouvre à la fois l'idée d'installation, l'idée d'action scénique, l'idée du théâtre musical, dans un sens expérimental. Qu'est-ce qu'on fait du Hörspiel si on le met dans un théâtre ou si on le met dans une salle de concert? Il y a un côté performance là dans cette chose-là.
La radio FM est un procédé de
radiodiffusion. Longueur d'onde. Radio FM. La radiodiffusion est destinée à
bande spéciale.
La radiodiffusion. Longueur d'onde.
Radio FM. Très haute fréquence. Les récepteurs radio grand public ne proposent plus systématiquement cette gamme d'ondes depuis quelques années.
Bande 87.5.
Moyenne fréquence.
Je fais qu'elle n'est pas utilisée partout dans le monde.
108 MHz.
Et que son utilisation devrait se réduire.
605 kHz.
Radio, making of une radio performance. Andrea Cohen, Diego Loza, Véronique Lamandou. Avec François Bell, Marie-Hélène Bernard,
Jean-Yves Brosseur, Michel Chion, Michel Fanon, Luc Ferrari, Nicolas Frise, Tom Johnson, Ray Gallon, Jacques Labarrière, François-Bernard Mache, Pierre-Marie Etan, Kay Mortley, Christian Rosset, Patrick Roudier, Christian Sanesi. Et les voix de Mauricio Kagel, Pierre Schaeffer et John Cage. Archivina, Annie Lozana. Mixage, Olivier Dupré. Coordination, Irène Omelianenko. Attachée de production, Shushan Jergayan. Radio Performance pour la radio a été créée le dimanche 4 février 2018 à Brest dans le cadre du festival Longueur d'onde. Elle a été composée et interprétée par Andrea Cohen au piano et Diego Loza à l'électronique, avec les comédiens Nicolas Yada, Anouk Edmond, Nora Boulanger-Hirsch et Jean-Baptiste Pressac, sous la direction de Véronique Lamandour. Avec le concours du GRM, Groupe de recherche musicale de l'INA.
On peut dire des sons, ou musicaux, des sons musicaux, ou musicaux, des sons, on peut dire des sons, ou musicaux, ou un bruit, qui sont seulement des événements sur la surface de la silence.
Qu'est-ce que c'est la radio ? C'est vraiment une question qu'on se pose en permanence, je crois, quand on la pratique. Et là, on a pu plonger dans les coulisses avec vous, Diego Loza et Andrea Cohen. Alors, il y en a une qui joue du piano préparé, l'autre qui joue d'instruments un peu plus petits, hein, dont il a l'habitude au GRM, au groupe de recherche musicale. Et ces coulisses, d'un seul coup, on semblait très grandes. Et c'était aussi des coulisses dans le temps, puisqu'il y avait des archives dont je soupçonne que certaines sont du siècle dernier, Andrea Cohen.
Oui, enfin, c'est disons que ça. J'ai commencé à faire ces enregistrements en 1998, peut-être il y a un petit peu avant, parce que je voulais faire une recherche en musicologie, mais en mettant ensemble mes deux passions, donc la musique et la radio. Donc le sujet était le compositeur et la radiophonique. Et donc j'en ai rencontré effectivement une bonne vingtaine. Ils ont tous été très très aimables, très accessibles, très partants. Même ceux qui n'avaient pas fait beaucoup de radio ou très très peu, c'est-à-dire que souvent c'était des gens donc qui avaient travaillé à la création. Certains avaient plutôt travaillé en Allemagne, en Cologne ou dans d'autres villes d'Allemagne où on faisait de la création radiophonique. Enfin, ils étaient tous très intéressés par la question et surtout par la relation entre musique et radio.
Et on peut dire donc que ce corpus qui a été réuni de témoignages enregistrés, fort heureusement, et pas seulement manuscrits, ont été un petit peu à l'origine de ce projet ?
Alors, à l'origine de ce projet, oui, parce que moi, j'avais toute cette matière enregistrée et je suis allée voir Irène Omelianenko pour lui dire, voilà, j'ai toute cette matière et qu'est-ce que je fais avec ça ? Puis elle m'a posé une très bonne question. Et c'était, oui, mais alors artistiquement, qu'est-ce qui se dégage de tout ça? Et là, tout d'un coup, je dis, oui, en fait, de tous les gens que j'ai rencontrés, il y a Luc Ferrari qui m'a parlé de quelque chose qui a résonné en moi. Il m'a parlé de la radioperformance qui se faisait déjà dans les années 80 en Allemagne. Et moi, j'ai une expérience de théâtre musical assez longue. Et tout d'un coup, donc, ça résonnait en moi. Je me dis, voilà, en fait, c'est la chose que j'aurais aimé expérimenter. Je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à maintenant. C'est vraiment de faire de la radio sur scène.
Et cette radio, elle a été possible, il faut le dire, grâce au Festival Longueur d'onde, qui a permis qu'il y ait une partie de ce travail qui a été produit au Conservatoire de Brest. Alors, il faut peut-être passer à la deuxième étape, donc on a tous ces témoignages qu'on a pu entendre. Et puis, ce qui s'est passé à Brest, c'est que sur scène, il y avait un piano préparé, avec Andrea Cohen, pianiste que l'on connaît bien. Et puis, plus discrètement, sur le côté gauche, un personnage apparemment discret, mais pas discret parce qu'il est tellement grand et tellement avec tout un tas de petits appareils du GRM et qui était là pour travailler avec ce qui allait être donné avec ce piano préparé, avec ses voix. C'est vous, Diego Loza ?
Oui. Non, l'idée, c'est, comme on disait avec Andrea, c'est les pianos préparés et l'ordinateur préparé. Parce qu'on a mélangé un peu l'idée de la partie très acoustique de piano avec l'idée de la transformation sonore en temps réel avec les GRM Tools et en même temps les travaux sur le temps réel sur la musique concrète aussi parce que dans ces cas-là j'ai travaillé avec tout cet enregistrement de voix des compositeurs et de son, de radio, tout ce qui s'était lié à la radio, de manière à faire une sorte de musique, de composition en temps réel, que c'est ça l'improvisation. Parce que moi, j'ai le concept d'improvisation, c'est que l'improvisation ne s'improvise pas.
Sinon, elle se prépare l'improvisation, voilà. En fait.
Sinon que l'improvisation, c'est travail. Et moi, je pense que l'improvisation, c'est de la composition en temps direct. Et c'est ça qu'on a fait avec Andrea, parce que bon, on a travaillé beaucoup, on a fait des longues journées de travail d'improvisation et de composition en même temps avec toutes ces parties de piano et piano préparé et les pianos préparés aussi électroniquement parce que non seulement on a ajouté des objets à l'intérieur un hommage à Cage on pourrait dire sinon qu'on a travaillé tous ces sons de manière électronique, et on pourrait dire que c'est aussi un hommage à Schaeffer. Ça veut dire qu'on a mélangé nos expériences musicales. C'est ça la question.
Et alors, il y a un troisième personnage, c'est Véronique Lamandour,
voilà,
qui vous a accompagnée comme réalisatrice dans cette aventure, tout le making-of, là, c'est pour le coup.
On a fait un trio, presque. Parce que elle est arrivée de manière à écouter ce qu'on faisait, tout ça, et ça impliquait énormément parce que vraiment on avait une communication interne entre tous les trois, et des idées qui sortaient, tout ça, et elle s'occupait carrément de un peu diriger les comédiens avec les voix, tous les textes qu'il devait dire, la manière et tout ça. Elle s'occupait un peu de guider un peu les comédiens. Après, les comédiens, ils ont fait c'est ce qu'ils voulaient, parce que la consigne, c'était un peu ça. C'est lancer un peu dans une sorte d'improvisation aussi, mais guider un peu.
Alors, aujourd'hui, en 2018, Andrea Cohen, qu'est-ce que la radio ?
J'ai tellement entendu tous ces gens qui ont dit que la radio est un lieu de diffusion et de création. Et j'espère qu'elle va rester un lieu de création pour longtemps. Parce que c'est très important d'avoir un espace de création qui soit accessible à tout le monde.
Et vous, Diego Loza, qu'est-ce que la radio ?
Et pour moi, c'est du rêve.
Vous vous souvenez ou pas, vous avez dansé le slow, cette danse qui serait menacée d'extinction. Demain, dans Création on Air, Urgence, avec la mission Slow, par Thomas Guillaume Bataille, Gilles Mardi-Rossian.